Belle fébrilité du vendredi.
Une belle fébrilité.
Fébrilité, vous avez remarqué?
Fébrilité. Allô?
Pierre Brassard. normal. Sophie-André Blondin,
invitée. Ben oui, elle est là.
Présente tout le monde. J'ai remarqué que les femmes qui ont animé le carrousel ont bien présenté les gens en prologue. Je fais la même chose avec Olivier qui est avec nous.
Allô?
J'ai envie de garder une belle vitesse de croisière et non pas faire planter tout ça le vendredi bonheur.
Ça fait du bien le retour d'un mâle alpha à la.
Ah oui, un mâle alpha. Avec ma gang du Lucide Podcast, on s'abonne rapidement. Des bons chums. Chacun chez eux. On est-tu bien? Non, mais c'est vraiment l'alpha hétéronormatif blanc. Mais ouais. Ce sera pas, je ne vais pas jouer là-dessus.
Non, non.
Je rentre de Belgique. C'est plus que vous me posez la question. C'est d'où mes absences à Silence on joue. Pourquoi j'étais pas, on va se le dire, ni au Trichard. C'était que j'étais en Belgique en voyage.
Vous étiez allé faire quoi?
Ben oui. Ah, merci pour la question, Gab.
Ça me fait
Côté.
Plaisir.
Nouvelle coiffure, Gab?
Oui, je suis redevenue rousse. Je suis allée mourir dans Stade en blonde.
Oui.
Et maintenant, j'ai plus besoin d'être à corps, comme on dit dans le milieu.
Oui, vous avez été pâlie. Évidemment, c'était du maquillage parce que vous êtes cadavre.
Oui, oui, évidemment.
Cadavre, je ne croquerai jamais de ton orteil.
Exactement. Ah, exactement. Mais là, ouais. je suis redevenue rousse, alors tout le monde peut me croquer.
Oui, oui. Dans des rôles, évidemment. Voilà. Mais la question, qu'est-ce que j'étais allé faire en Belgique,
oui.
puisqu'on vient à moi et désolé de cette espèce de spirale qui va vers l'animateur, j'ai assisté à un mariage.
Ah! Oh, que c'est cute!
Mais oui, le petit dernier, c'est le frère, le petit jeune de la famille de ma blonde qui s'est marié. Ça se marie beaucoup en Belgique. Moi, je suis allé en Belgique plus souvent. À chaque fois, c'était pour un mariage, presque.
Bon.
C'est rarement... puis on a été mis à contribution parce que le mariage se déroulait dans la cour des parents du jeune marié. Et il y a un chapiteau. Ça va dans un chapiteau? Il n'y a pas de... Bon, il va pas se mettre à parler en mongrin.
Quoi, c'était apporter... Non, mais c'était apporter votre vin,
bonjour.
C'est quoi?
Oui, apporter votre vin, apporter votre chapiteau. Il fallait que je mette l'épaule à la roue. Pour.
Vous avez bâti un chapiteau?
Oui, avec un Belge qui arrive avec son chapiteau. À une compagnie qui existe depuis des...
Une fois, c'est un Belge.
400 ans. On veut juste saluer Dominique Tardif qui est là. Là.
Bonjour Pierre, est-ce que l'émission a commencé?
Oui, mais on est dans le prologue. Bienvenue Dominique.
Ça fait plaisir. Je suis fier de moi. Je me suis obstiné avec un chauffeur de taxi.
Oh non!
Pour la première fois de ma vie.
C'est-à-dire, sur quel sujet?
Je lui ai dit, on prend cette direction-là.
Ah ouais.
Puis ça n'a pas marché, visiblement.
Non, c'est ça. Je serais arrivé vraiment plus en retard si on avait écouté le chauffeur.
Ah ouais? Oh,
finalement, donc vous avez perdu dans ce combat d'opinion. Vous auriez dû écouter le chauffeur.
Non, c'est moi qui avais raison.
Ah oui, vous aviez raison.
Oui, c'est ça, je me suis mal
vous
exprimé.
Vous avez raison d'être en retard, finalement.
Je suis essoufflé. J'ai raison d'être en retard, c'est
aucun
ça.
Aucun jeu de mots avec tardif, mais vous êtes...
On m'a déjà dit que mon nom de famille était un aptonyme.
Un aptonyme.
Oui, c'est ça.
Ah oui, oui,
c'est beau,
souvent.
Ce mot-là.
Roger Piastre. Non, c'est ça, qui est comptable. Non, c'est pas
ouais,
ça.
Docteur
mais...
Pipi-Salé, Pipi-Rolac.
Steve Boucher.
Mais on met tout ça, le scandale routier, on le laisse de côté.
Merci, merci de me pardonner.
L'agence QMI va bien récupérer ça, vous le savez.
Ils sont ratoureux.
Oui, exactement. Vous êtes une des bonnes plumes de la presse, je dis avec sincérité.
Ah, ben c'est gentil.
Oui, on était en train de parler...
Je vous ai coupé complètement dans votre histoire belge.
Les chapiteaux, je pense qu'on avait fait le tour du chapiteau.
Non, c'est pas terminé.
Ah, bon, okay.
Donc, c'est un mariage. ils ont une grande cour. Le petit garçon, alors, on a 200 personnes qui s'en viennent. Alors, ils ont fait venir un chapiteau, une compagnie centenaire, qui au début, je me suis informé, parce qu'il y avait un gars avec une clope, et lui, c'était vraiment une clope, là. C'était un Belge. Dégarni, les yeux bleus, très, très beau regard, une pipe, non, mais pas une pipe, une cigarette à la Lucky Luke dans le temps qu'il avait le temps d'en tirer.
Ah, oui.
Une grosse gitane.
Gitane maïs, là,
et
jaune.
Qui nous dit, c'est un chapiteau avec plancher de bois, là, il fallait mettre les rails, tout ça, là, puis moi,
mais vous payez physique. Pour ça, puis vous le montez vous-même?
Ben, c'est-à-dire que oui, il y a besoin
c'est
d'aide.
C'est la famille.
Non, mais là, quelqu'un dirige les montants et tout ça. On avait des perches métalliques. C'était fou. En tout cas, vous pensez qu'on a fait le tour, peut-être. Ouais, vous avez raison. Parce que la plupart du temps, je leur disais, je leur posais une question, puis ils me disaient, s'il vous plaît. Ça veut dire, pardon, je te comprends pas, Niochon.
Ouais.
Alors, évidemment...
Ça veut pas dire merci aussi, s'il vous
plaît. Mais s'il vous plaît, oui, quand on vous apporte le drink, là, en terrasse.
C'est compliqué.
Oui, c'est
moi aussi, je suis allé l'année passée, cette année, en Belgique.
Ah oui, c'est vrai, voir un spectacle.
Un spectacle d'Indochine.
Oui, oui, oui.
Mon Dieu.
Vous êtes en Indochine?
C'était son cadeau de.
Moyennement.
Il y avait du jugement dans la voix de Sophie-André.
Non, mais ils sont encore en forme, là. Mais mais c'était juste le plaisir d'aller là, non, d'aller voir ça. Il était là.
Et puis qu'est-ce qu'on est quand on est hors de chez soi? Puis là, on cherche des liens. Mais là, je suis encore de Belge. Fait que là, je leur dis à nous aussi, on a des micro-brasseries. Là. Je voulais même pas finir ma phrase. Je me suis dit, mon Dieu, c'est.
Avez-vous parlé de frites à l'or?
Quasiment. Ça fait 600 ans qu'ils sont dans des barils puis ça sent bon. Oui, mais on en a des... Tu fermes ta gueule, c'est pas intéressant. Mais
je comprends.
J'ai entendu beaucoup de « s'il vous plaît » toute la semaine. Mais c'est une belle...
Moi, je m'en vais voir Sissi en Autriche. Je pars là, tout de suite après l'émission.
Pensez mon chien, dont c'était le premier anniversaire cette semaine.
Sissi l'impératrice, Sissi la pièce, Sissi...
Ben, Sissi l'Autriche, là.
Ah oui! Donc, évidemment, sur les traces...
L'Autriche.
Les traces d'Arnold.
Les traces de Sissi.
Ah oui, ben l'Autriche seulement, il n'y aura pas d'autres...
Non, je vais faire le tour. En fait, la vraie raison, je vais faire le tour des vignobles en Autriche.
Oui,
et là, les gens qui pensaient qu'on n'était pas bourgeois...
Non, pas du tout.
...ont la confirmation. Ce prologue est très bourgeois. Là, des mariages en Belgique. Ouais. Allez voir un spectacle qu'on aime moyen en Belgique. Allez en Autriche faire le tour des vignobles.
Moi, j'allais faire un reportage à Longueuil.
Un chauffeur de taxi.
Pas bourgeois,
tout
moi.
Ça,
non,
là,
oui,
c'est très classique.
Non, moi, je marchais mon chien l'autre jour, puis j'ai laissé une personne en situation d'itinérance le flatter.
Bon. Ben, vous avez gagné votre ciel, Pierre.
Ben oh, oui, bravo. Mais quand je vais avec le camelot d'un jour, on m'appelle jamais pour se brasser dans sa tour d'ivoire. Excellent prologue sur l'ouverture vers les autres, la proximité, la chaleur humaine. Mon nom est Pierre Brassard, c'est la journée est encore jeune, vous avez raison. C'est le vendredi bonheur, on a Gab Côté avec nous.
Salut!
Olivier Niquet, bien sûr, qui fait partie de la tendresse maintenant de la maison. Je sais faire un Jean-Sébastien. Ben, vous êtes cette île, ce fleuve tranquille, comment on appelle ça, l'affaire avec une lumière dedans, un phare.
L'encre.
Un phare!
Ah!
Oui. On a Sophie André Blondin aussi.
Oui, bonjour. Bonjour.
Et Dominique Tardif.
J'ai hâte de savoir ce que je suis, moi, si
ben, vous êtes nos années lumière. Et vous êtes des femmes lumière. Et Dominique Tardif de La Presse, collaborateur
bonjour,
ici
Pierre.
Première. C'est la journée est encore jeune. Édition du vendredi 26 septembre. Vous savez, j'ai deux cerveaux en ce moment. Il y en a un qui dit « déconne, déconne, déconne ». Puis l'autre, il dit « fais preuve ». Fait preuve de droiture et d'organisation.
Puis pourquoi vous l'écoutez, ce cerveau-là?
Ben, je sais pas. C'est ça, c'est mon côté.
Il vous a pas servi dans votre carrière, ce cerveau-là?
Le drette, là, non, je sais.
Il y a diablotin ici, là.
Exactement, il faut se laisser aller. Mais comment allez-vous? J'ai envie de parler. Alors, j'écoute quel cerveau? Je sais pas. J'écoute sûrement le cerveau foufou, là. Le cerveau foufou.
Oui.
Yeah! Oh, non, il nous ramène Raymond Beaudoin. Je pense qu'on est mieux aller aux essentiels poteaux solides de l'émission.
Poteau,
c'est les... comment t'appelles ça?
Le phare.
Ben, c'est le phare, mais
le guide.
Le bâton de parole aussi, c'est à vous. Je vous le transmets. Ça existe, le bâton de parole.
Okay. Référence autochtone.
Oui, ah oui, bien
c'est
sûr.
C'est la portion autochtone de l'émission.
On manque pas mardi, là. Hein, en fait, mardi.
On va se réconcilier, oui.
Oui, exactement. Journée de congé.
Je me dissocie de cette appropriation culturelle.
D'accord.
Je vous parle de hockey pour commencer, Pierre.
Ben, comme ça y est, ça part bien.
Comme ça va être réglé. Normand Flynn, avant le match d'hier, nous a fait son analyse à RDS du sort qui attend le joueur de centre Kirby Dach s'il se grouille pas le derrière.
Les attentes à son endroit, faut pas que ce soit trop élevé. Là. Il y a un processus et un plan à suivre.
Je vais être gentil. Lui, il est sur une chaise électrique.
Oh. Pardon?
Électrique? Ouais. Chaise électrique?
Non, chaise électrique.
T'es convaincu de son affaire.
Ben oui.
Donc, c'est ça. Hier, Kirby Dach était d'ailleurs au centre du couloir de la mort entre Demidoff et Laine. Et ça s'est pas super bien passé. Ils ont eu des petits problèmes d'exécution. Mais on va leur laisser encore un petit peu de temps. Je vous parle maintenant de politique municipale. Hier, on a eu droit à des sondages à Montréal et à Québec. À Montréal, ça va pas super bien pour Projet Montréal. À Québec, ça va pas super bien pour Sam Hamad. Sur les ondes de nouveau, M. Hamad est passé à l'attaque et il a dénoncé Bruno Marchand qui a annoncé 400 km d'asphalte.
Ouf. Quand j'ai entendu 400 km d'asphalte, là, savez-vous à qui j'ai pensé? À Maurice Duplessis. Ah. Il faisait ça des campagnes d'asphaltage des rues avant la campagne électorale.
Pensez que c'était passé?
Bien, c'est du passé. Maurice Duplessis, là, c'est les années 50 là, au Québec. Là.
Vous comparez Bruno Marchand à Maurice Duplessis?
Bien, on annonce 400 km d'asphalte.
Donc, la grande noirceur dans les rues de Québec. Oui, vous le voyez pas à la radio, mais c'était aussi la grande noirceur dans le studio de nouveau parce que l'éclairage a lâché pendant son intervention. On se demande ça va être quoi la prochaine affaire. Il y a peut-être des candidats qui vont promettre un pont vers Lévis. Oh. Il y a eu aussi de la bisbille entre médias et politiciens à Québec. Stéphane Dupont de Cogeco a commencé à recevoir les candidats, ce qu'il fait jamais habituellement pendant une campagne électorale, mais il n'avait pas réalisé que la campagne était déjà commencée. True story. Monsieur Dupont a posé à Bruno Marchand la question qu'il allait mettre le feu aux poudres.
Est-ce que Mme Gagnon, Karine Gagnon, c'est ça son nom?
Oui, le Journal de Québec.
Elle travaille pour vous, non?
Journal de Québec?
Oui, exact.
Non, pourquoi tu dis ça?
Pas moi, mais aussi beaucoup d'auditeurs et donc de lecteurs qui me disent c'est polarisant comme c'est uniquement en votre faveur et contre tous les autres.
Ouais, vous saurez.
Oui. Vous savez, oui, il y a eu plusieurs changements au carrousel.
La technique d'oublier le nom de quelqu'un, c'est assez commun chez ces gens-là pour dénigrer une personne. Évidemment, il sait très bien son nom, puisque Mme Gagnon a déjà fait une plainte à son endroit il y a quelques mois et il avait dû s'excuser en onde. Elle s'est indignée, Mme Gagnon, de ses insinuations dans une chronique disant que pour certains hommes de Cro-Magnon, dans le genre de Stéphane Dupont et d'autres animateurs de Choix Radio X, une femme ne peut être dotée d'un esprit critique et d'analyse qui lui permet d'émettre des opinions éclairées sur la politique. Et les présumés Cro-Magnon de Radio X ont pas aimé ça, se sont portés à la défense de leur concurrent du FM 93.
Stéphane Dupont a dit quoi exactement? J'ai pas entendu, Steph, quand il a parlé à Marchand de Karine Gagnon. Par contre, Karen met ça en une et Karen écrit une page au complet. Oh, 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 Stéphane a le droit à sa page aussi. Moi aussi, j'ai le droit à ma page. Oui. Vous en souvenez de ça? Je suis le dernier vestige de la radio poubelle. Un bel article de marde de diffamation de Karen.
Bon, je sens qu'il y a une petite amertume ici là, de Dominique Moret qui a déjà subi les critiques de Mme Gagnon. Karen, en passant, c'est un terme utilisé là, pour désigner de manière péjorative une madame qui s'insurge de tout. Donc, M. Moret n'a pas écouté l'entrevue, mais il y avait ceci à dire à Mme Gagnon.
Karen, c'est pas parce que t'es une femme. Mon opinion, c'est parce que t'es pas bonne. C'est tout. Mais ça, c'est mon opinion! Savez-vous quoi? Je peux vous donner d'autres journalistes et d'autres chroniqueurs et d'autres analystes masculins que je trouve pas bons. Pourquoi? Parce que c'est pas appuyé sur des faits, c'est pas équilibré, c'est des attaques gratuites.
Voilà, elle fait des attaques gratuites, dit-il à cette Karen pas bonne. Et elle ne se base pas sur les faits, dit-il, après avoir avoué ne pas avoir entendu l'entrevue dont il parle. Donc, c'est un chef-d'œuvre d'autoportrait. On s'en va maintenant à Granby, où un autre candidat fait jaser. Il s'appelle Jawad El Kabi. Il aurait été interdit d'accès au conseil municipal et lui aussi a des petits problèmes avec les journalistes, comme on peut l'entendre dans ce reportage de nos collègues en Estrie.
Est-ce que, oui ou non, vous êtes interdit d'accès au conseil municipal actuel?
Non, mais vous avez bien les projets. Parce que là, tu fais de la prostitution journalistique ou de la masturbation journalistique, monsieur.
Et en terminant, Marie-Ève mentionne que donc ce candidat, il a été condamné à être expulsé de son logement parce qu'il aurait fait du harcèlement envers d'autres locataires.
Belle feuille de route quand même. Donc ça, il a été expulsé du logement. Bientôt, il sera expulsé du débat public. Et on termine avec mon candidat préféré, Christian Collard d'Alma. Je sais qu'ils en ont glissé un mot hier à Infoman, mais je sais aussi que plusieurs personnes n'écoutent plus Infoman depuis que Jean-Sébastien a révélé que René Dufort, une fois, c'était pas laver les mains aux toilettes.
Oh, oui.
Commençons par présenter le personnage qui est conscient de ses lacunes.
Je voudrais m'adresser surtout à ceux qui ne m'aiment pas, à ceux qui, par hasard, n'aimeraient pas ma face. Je vais vous dire que moi non plus, j'aime pas vraiment ma face. C'est, je suis en conflit d'intérêt un peu avec ma face. C'est pas pour rien que je veux mettre Jésus en avant.
Ouais. Et c'est pas mal ça le point central de sa candidature. Jésus veut ramener le crucifix au conseil municipal. Il veut interdire les mosquées à Alma. Il s'adresse aussi aux jeunes. D'ailleurs, peut-être pour faire plus jeune, il a changé de couleur de cheveux entre deux vidéos.
Je préfère que les adultes m'écoutent pas. Parce que moi, je veux pas être le maire d'une gang d'imbéciles. Je veux pas être le maire d'une gang d'imbéciles d'adultes qui, d'abord, ne croient pas en Jésus. Une gang d'imbéciles qui écrasent les jeunes, puis des fois les vieux aussi. Moi, je vais être le maire des jeunes.
Ouais, une stratégie électorale audacieuse quand même, insulter 80 % des électeurs pour plaire aux 20 % qui votent généralement pas. Il veut aussi être le candidat de la communauté LGBTQ dont il fait partie, il dit faire partie, et estime que même si Jésus tripait pas tant que ça sur les homosexuels, ils ont leur place.
Les LGBTQ+, sont les bienvenus dans l'Église. Et qu'ils vont aller au ciel. Je me dis que si Justin Trudeau, lui, il a libéré le Canada de l'enfer de la drogue, moi, ben, je vais vous libérer de l'enfer de la prostitution. Ah. Voter Christian Collard, c'est voter pour l'amour, c'est voter pour la libération, c'est voter pour... la vie éternelle.
La vie éternelle, ça c'est quand même pas pire comme promesse électorale. Et son message final, ben, c'est qu'il faut mettre fin aux souffrances de l'humanité d'Alma.
Je pense pas que c'est avec les lois gouvernementales actuelles qu'on va soigner cette souffrance-là. Cette souffrance-là, on va la soigner avec Jésus. Mais merci de m'avoir écouté, puis le 2 novembre, c'est pas pour moi qu'il faut voter. Non? C'est pour Jésus.
Ah!
Amen.
Amen.
Ben, crime, c'est bien parti. On va le suivre.
On va soigner la vieille.
Ouais, on va soigner.
Oui, oui, oui. Puis pour les gens qui sont évidemment à la radio, c'est qu'il s'est bien, bien teint les cheveux.
Ben, il change de couleur à chaque fois.
Oui, c'est vrai. Aussi, oui, c'est ça. Ben, c'est un candidat au poil. Désolé pour ça.
Comme
merci,
Gab.
Olivier. Ben oui. On l'a accueilli au début de l'émission. Vous écoutez Claude Saussier. Non, c'est une blague. Ah, ça y est, le cerveau qui dérape est revenu. Non, mais c'est Pierre Brassard. Donc, alors mercredi, bienvenue Sophie André.
Ça fait toujours plaisir de vous rendre visite.
Ah, les allées-lumières. Alors, encore une fois, vous avez sorti vos tabourets, votre petit comptoir à shooter avec, évidemment, des béchères qui font de la fumée étrange.
Ah oui, ça aurait
pour
été
le
bien.
Fameux bar des sciences.
Effectivement.
Rappelez-nous, c'est quoi cette formule-là? C'est pas le bar où on va, mettons, à Apple Store réparer son iPad. Là.
Ah non, pas du tout. Ça, non. Les années-lumière, on sent, nous aussi, on peut avoir du plaisir.
Donc, qu'est-ce que c'est cette formule-là qui nous est importante?
Le bar des sciences, c'est un 5 à 7 entre le public et les scientifiques. C'est un peu l'idée qu'on veut donner. C'est-à-dire qu'on trouve une question qui polarise les gens ou qui amène des réponses ou qui amène la discussion. On trouve des experts, des expertes qui ont des points de vue différents là-dessus. Et ensuite, on invite les gens. On l'a fait mercredi au Cœur des sciences, ici à l'Université du Québec à Montréal. Et puis, on met les experts dans la salle. C'est pas un panel. On ne peut pas leur servir une discussion. Les experts sont dans la salle. Les gens ont plein de questions à poser. Ils sont très gênés. Ils ne posent pas leurs questions au début. moi, je travaille. Je mène un peu la discussion. Puis à un moment donné, tout le monde se dégêne. Tout le monde a des questions. Et la discussion s'enflamme.
T'as pas raison. Viens voir mon gros camion. Non, mais c'est pas comme ça pour vrai. Mais là, le thème, la dernière fois qu'on s'est vu à la journée, c'était on parlait de sommeil.
Oui.
Et là, c'est l'alimentation. Un autre sujet, pas polarisant, mais tellement important parce que moi, je pourrais vous en parler longtemps, évidemment. J'ai
vous
fait
êtes grand
une
expert.
Ben oui, parce que j'ai fait une saison d'Autonome où j'apprenais à cuisiner. une série à Télé-Québec qui a jamais été ramenée en ondes.
Parce que vous partiez de loin.
Mais je partais de très loin. Mais aussi, j'ai beaucoup d'angoisse, comme les gens, je pense, par rapport à l'alimentation.
Oui.
C'est-tu vraiment rendu si compliqué que ça, Sophie-André Blondet, en
2025? C'est la question qu'on a posée. C'était la question qu'on se posait. Pourquoi est-ce que c'est devenu si compliqué? Enfin, on posait la question, mais on avait l'affirmation. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Ben, quand vous avez préparé hier soir votre grand repas gastronomique, parce que vous êtes un expert maintenant,
évidemment.
Est-ce que vous avez bien pensé à référer aux 7 niveaux de classification NOVA de la transformation alimentaire? Ouais, est-ce que vous avez respecté la boucle de 100 km là, pour l'alimentation locale?
Ouf.
Avez-vous pensé à acheter des ingrédients bio? Avez-vous acheté ajouté de la vitamine D3, du magnésium, du bicyclinate, du collagène, des trucs comme ça qui sont indispensables, des ingrédients indispensables? Êtes-vous allé réécouter votre YouTuber préféré, là? Monsieur Yvan des suppléments? Là?
Yvan des suppléments?
Ouais,
ben
ouais, c'est ça.
Il change de couleur souvent de cheveux aussi, mais c'est
Vous voyez, comme préparer un repas, c'est difficile quand on fait toutes les étapes comme ça.
Ben,
hein?
Comme moi, je fais livrer du poulet, mais à 99 km et moins de chez moi. Ça, c'est consommé local. Oui, avec tout l'aspect santé aussi,
c'est ça.
Bonnes combinaisons de repas. Là, vous ajoutez une couche de stress. Est-ce que les scientifiques ont réussi à calmer le jeu?
Ben, en fait, calmer le jeu, ils nous ont décrit un peu ce qu'on vivait dans le brouhaha alimentaire. Et j'ai décidé de vous le faire vivre ici autour de la table avec un quiz aujourd'hui. Alors, moment
concept
quiz.
Étranger pour moi.
Qu'est-ce qui vous fait craquer, là, Olivier? Là, à quoi est-ce que vous ne pouvez pas résister quand vous avez faim? Là? C'est un gâteau au fromage? Une poutine, une pêche.
Qu'est-ce qui vous fait lever la nuit?
Des croquettes de poulet.
Des croquettes de poulet grillées.
J'allais dire du vin. La pizza.
Du vin d'Autriche.
Okay. Alors, on a ici des croquettes de poulet, de la pizza.
Des friandises,
des bonbons. Pierre.
Pour pallier à une faim rapide, un bon bol de céréales.
Bon,
non, c'est plate,
qui est excitant, lui.
Non, mais...
C'est pas grave. Mais mettons votre bol de céréales. Alors, on vous met chacun devant ces ingrédients-là, ces aliments-là, et vous salivez. Mais vous vous sentez coupable. En fait, vous avez plusieurs options. Parce qu'il y en a, évidemment, c'est pas toujours bon de les manger.
OK, j'ajoute une poutine, là, juste pour clin d'œil à Olivier Primo. Là. Salut mon chum, tu m'écoutes, je le sais.
Avec extra saucisse.
Oui, exactement.
De la poutine comme ça.
Qu'est-ce que vous
faites pour... Est-ce que vous résistez à la tentation? Est-ce que vous vous roulez en boule puis vous mettez du ruban gris collant là, pour pouvoir résister à la tentation? Êtes-vous du genre à...
Non.
Zéro. Mais moi, je vais plonger, mais avec culpabilité permanente.
Et voilà. Et là, vous venez de rajouter l'ingrédient culpabilité, donc l'émotion. Parce que la poutine en soi, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle n'est pas bien ou mal. Mais dans toute notre façon de manger maintenant, puisqu'on ne mange pas seulement avec nos bouches, mais avec nos cerveaux et avec nos cœurs, ben, on a rajouté des émotions aux aliments. Si par contre, vous regardez du genre, regardez à gauche, à droite.
Oui.
Et si personne vous voit, vous avez le droit de le manger. Ouais. Là, vous allez vers tout ce qui est troubles alimentaires. Puis là, il y a une augmentation incroyable des troubles alimentaires avec des noms, une liste d'épiceries de troubles alimentaires. Parce que, justement, on a rajouté plein de choses qui ne font pas partie de la nourriture elle-même à l'alimentation. Ouais. Et on a mis une valeur morale au contrôle. C'est-à-dire qu'on met sur un piédestal aujourd'hui les gens qui réussissent à contrôler leur appétit. La minceur, on lui met une valeur morale. Alors qu'il y a des siècles, c'était le contraire. C'était plus les rondeurs qui étaient mises. Donc, il y a de la culture. Il n'y a pas seulement de la nourriture dans nos assiettes. Mm-hmm. Si vous êtes devant votre poutine, votre bol de céréales vraiment sexy, ou la pizza, ou avec la poutine, et que vous la mangez sans arrière-pensée, parce que, de toute façon, quand est-ce que vous allez porter votre speedo, là, ça va prendre un petit peu de temps, là? Quelques mois?
Oui, parce que c'est la saison.
Puis Pierre a un beach body à l'année de toute façon.
Oui, c'est ça.
Ben justement, le beach body, si vous êtes sensible à ça, c'est pas vous, c'est la culture autour, c'est les normes sociales. Donc, on a normé un peu l'allure qu'on doit avoir. Et ça participe de nos décisions alimentaires. Pas mal par des sciences, il a été évoqué qu'on faisait presque 200 décisions alimentaires par jour. Donc, il y a 200 moments dans la journée où on ferait des choix. Ça, je suis allée fouiller un peu après. Oui. Ça vient d'une étude de 2016. Ça a été remis en question en 2025, mais ça veut juste nous dire que dans la vie, à tous les jours, il y a un nombre important de fois où on prend ces décisions alimentaires. Si à votre bol, bol de céréales, je reviens parce que vous m'impressionnez avec quelqu'un qui est vraiment tenté par un bol de céréales. Si vous ajoutez toutes les choses que j'ai mentionnées pour vos muscles, de la créatine pour récupérer, de l'huile de chia, de l'huile de foie de morue.
Le chia, j'aime ça, moi.
Ouais, c'est bon, hein? Des quoi?
Des protéines.
Des protes.
Oui, absolument. Puis peut-être des vitamines Flintstone, là, pour donner un petit peu de croquant.
Vous benchez combien? On n'a pas le temps pour cette question, mais alors si j'ajoute en plus tout ça...
C'est que vous êtes perméable à l'environnement de l'information qui va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est bombardé d'informations sur l'alimentation. Il y a là-dedans de la science, il y a des croyances, il y a des imbéciles. Il y a toutes sortes. Et là, on est tous perméables à tout ça et ça fait partie de ce qu'on a comme environnement pour décider. Alors, quand on demandait aux gens pourquoi est-ce que c'est si compliqué de manger, on partait du fait qu'à cause de tout ça, oui, c'est devenu compliqué de manger. Oui, on se complique la vie. D'où ça part? Fait qu'on a invité une historienne, neuropsychologue, psychologue, nutritionniste.
C'est dans la deuxième heure des années-lumière, c'est
Toute la deuxième heure des années-lumière, c'est nos discussions musclées.
J'aurais voulu parler de l'hormone du stress, le cortisol, mais à la prochaine fois. C'est que je voulais le mentionner, le mot cortisol.
C'est un beau mot.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'arrête de regarder TikTok. Il y a trop d'influenceuses. Des fois, je réponds pain. Vous voulez manger moins de pain? Des pains, mais on me répond en privé. En tout cas, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Sophie André. Restez pour...
Scandale. Pétou.
Bien sûr.
La revue de presse. Ben, avec Gabriel Côté.
Avec Gabriel. Tout a été dit, je pense. On vous écoute, Gab. Beaucoup de nouvelles.
Mesdames, messieurs, vos manchettes ce midi. Aux États-Unis, d'abord, un assistant enseignant arrêté pour avoir utilisé un spray à odeur de crotte dans une école, provoquant l'évacuation et des dégâts évalués à 55 000 $. La police, en conférence de presse, aurait affirmé que c'était une idée de marde. On peut lire dans les journaux du jour que Rosalie Vaillancourt poursuit sa tournée malgré un accident de char. Notez que l'accident de char est véritable et ce n'est en aucun cas un commentaire éditorial sur la qualité de son spectacle. En Pennsylvanie, un chauffeur d'autobus à bout aurait délibérément fermé les fenêtres et augmenté la température de son véhicule à plus de 38 degrés Celsius afin de punir les écoliers turbulents. La police a porté des accusations de voies de fait contre ce chauffeur qui compte se défendre en faisant valoir que le titre de son poste porte à confusion et qu'il ne peut être accusé d'avoir chauffé l'autobus. À l'international, 10 pays, dont le Canada, reconnaissaient en début de semaine l'État palestinien. Les États-Unis, de leur côté, ne reconnaissent toujours pas la Palestine. En même temps, ça fait bientôt 4 ans que Jean-Sébastien est incapable de reconnaître notre technicien Pierre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
Ah oui, bonjour Pierre.
Les employés du Zoo de Grimby célébraient cette semaine l'anniversaire de Sarah, la doyenne éléphante de 42 ans. Véronique Cloutier aurait profité des festivités pour faire une mise en garde sur la périménopause possible de Sarah, malgré qu'il ne possède qu'une seule trompe. Cette semaine, une femme de Longueuil a ébouillanté un enfant qui stressait ses chats en jouant à Sunday Chris. Un incendie mortel sur le plateau Mont-Royal a été allumé par un itinérant cherchant à se réchauffer et un adolescent de 15 ans a été abattu par la police. Face à l'urgence, le gouvernement du Québec bannira l'écriture inclusive. On annonçait hier 50 prisons pour l'ex-président français Nicolas Sarkozy. En signe de protestation, sa femme, Carla Bruni, a saisi la moumoute de micro de Mediapart et l'a mollement jetée au sol. Nos sources nous confirment que ce geste était extrêmement mature. Un livreur DoorDash alerte la police d'une prise d'otage après avoir livré des articles suspects dans un motel. La police a confirmé que le livreur était devenu méfiant en raison de la nature de la livraison, mais n'a pas voulu révéler quels articles avaient été commandés. Des témoins ont parlé d'objets comme des sacs poubelles, des attaches tie-wrap, de l'eau de Javel et une petite hache. Mais ce serait l'extra sauce qui aurait mis la puce à l'oreille du livreur. C'était Gabrielle Côté, Radio-Canada, Montréal.
Oh, merci beaucoup pour tout ça. Nous voilà bien informés.
Vous trouvez notre émission cacophonique?
Non.
Réécoutez-nous au ralenti sur l'application Radio-Canada.
Dominique Tardif est avec nous pour nous faire une chronique qui aurait du beat, selon ce qu'on m'a dit.
Oh, okay. Excellent jeu de mots, Pierre. Non, mais c'est parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de mouvements ici à la journée au cours des dernières semaines, et je parle pas que du mouvement dans les cheveux d'Olivier. Mais sachez, Rosémie, que ça pourrait être pire. Je sais, cher Pierre, que vous en avez assez d'être le remplaçant de service, d'être le Cristobal Huet de cette émission. Eh bien, sachez que vous pourriez tout simplement ne plus avoir de job, et c'est ce qui m'amène à vous parler de l'hécatombe que sévit cet été dans le milieu de la percussion, du beat. Vous aviez raison.
Oui.
C'est une crise à propos de laquelle nos merdias québécois n'ont pas pipé mot. Tristement, ils sont demeurés silencieux à ce sujet. C'est une hécatombe que le magazine Rolling Stone a appelé le Drummergeddon. On pourrait traduire ça par batteur calypse. C'est simple, Jean-Sébastien. Il y a autant de batteurs qui ont perdu leur job cet été que de collaborateurs du 98.5 au cours de la dernière année. Ça a commencé par le batteur du groupe de Who, Zach Starkey. Zach Starkey, il jouait avec The Who depuis 1996 parce que le batteur historique du groupe The Who, Keith Moon, lui, il est plus disponible depuis le 7 septembre 1978 parce que le 7 septembre 1978, Keith Moon est mort. Keith Moon était ce qu'il convient d'appeler un méchant malade. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. En novembre 1973, avant un spectacle au Cow Palace de San Francisco, le Palace des Vaches, Keith était nerveux. Fait que pour le calmer, il y a une jeune dame de sa connaissance qui lui aurait offert des tranquillisants à éléphant, qu'il aurait avalé avec un verre de brandy. Si bien que Keith a eu du mal à tenir le rythme durant le spectacle, il a fini par être traîné hors de scène. Le guitariste du groupe a dit à la foule « On va juste essayer de ressusciter notre batteur en le frappant dans le ventre. » Ça a comme fonctionné, mais pas vraiment. On a fini par lui injecter de la cortisone dans le pied, mais Keith Moon a quand même perdu connaissance au beau milieu de la chanson « Magic Bus ». Tout ça pour dire, Pierre, que la prochaine fois que vous serez tenté de vous autoflageller après avoir animé la journée, je sais que vous êtes rarement satisfait de votre performance, que vous êtes très dur envers vous-même. Félicitez-vous de ne pas avoir perdu connaissance pendant une chronique d'Olivier.
Quoique des fois, ça peut arriver aussi.
Des fois, c'est tentant, effectivement. Mais pour revenir au Drummergeddon, le batteur qui remplaçait celui qui raffolait des tranquillisants à éléphant, le monsieur Zach Starkey, il a été renvoyé des Who après 30 ans de loyaux services durant lesquels pourtant il n'avait consommé aucun tranquillisant à éléphant, ce qui manifestement n'était pas suffisant pour conserver son poste. Cet été, il y a aussi le batteur de Guns N' Roses qui a été remercié, le batteur de Pearl Jam qui a tiré sa révérence, le batteur de Primus qui s'est poussé. Paraît que le batteur de Yellow Molo filait doux en tabarnam. Il y a Josh Freese, le batteur des Foo Fighters, qui a été mis à la porte, il a été remplacé par Ilan Rubin, qui lui a quitté le groupe Nine Inch Nails pour aller remplacer Josh Freese dans les Foo Fighters. Et qui a remplacé Ilan Rubin dans Nine Inch Nails? C'est Josh Freese des Foo Fighters. Et c'est pas tout ça, Pierre. Attendez un petit peu que j'ajoute quelque chose. Josh Freese est le batteur auquel Ilan Rubin avait succédé en 2008 au sein de Nine Inch Nails. Tout ça, c'est un peu comme si on demandait au gars qui anime « Pouvez-vous répéter la question? » de venir remplacer le gars qui remplace le gars qui anime la journée pour que ce gars qui remplace le gars qui remplace le gars qui anime la journée puisse aller animer le dimanche une nouvelle émission qui remplace l'autre émission qui animait le dimanche. En résumé, Suzy, il n'y a personne d'y remplacer dans vie, sauf les éternels remplaçants comme vous, Pierre Brassard.
Quelle belle leçon d'humilité. Les nouvelles de Phil Collins pendant ce temps-là, ben non.
Hein. Il est irremplaçable, lui.
Il est irremplaçable.
Irremplaçable, complètement. Il est très malade aussi.
Oui, c'est ça qui est malheureux.
Pourquoi terminer sur une note aussi sombre, Pierre?
Ben, imaginons-le quand il se promenait avec ses écouteurs puis il marchait autour de son drum avec sa chemise de représentant chez La Source. Voilà, une minute. Allez, merci à tous. Bon week-end. I feel it in the